Je vous ai annoncé Serge Kergouat et ses oiseaux de mer et du littoral. Bonjour Serge.
Bonjour.
Je rappelle quand même que Serge Kergouat, que vous connaissez sans doute si vous êtes fidèle à nos ondes, est photographe, qu'il étudie et qu'il dessine même les oiseaux depuis longtemps. Comme il vit à Camaret, ce sont plutôt les oiseaux marins qui l'intéressent et il en fait des livres. Et là, justement, il sort un nouvel opus. Alors, quand je dis nouveau, c'est pas tout à fait vrai. Ça s'appelle Oiseaux de mer, oiseaux du littoral, édité par lui-même, Serge Kergouat, et distribué par Cobrez. Alors, quand je dis c'est pas tout à fait un nouveau livre, c'est ça, Serge ?
Oui, en fait, il est nouveau, il est entièrement nouveau, puisque je l'ai complètement refondu. Mais il y avait effectivement un titre qui s'appelait Oiseaux de mer et de bord de mer. Et qui avait été imprimé d'ailleurs au Fou il y a quelques années, qui était épuisé. Donc comme on avait une demande et puis que j'avais envie de compléter un petit peu la présentation des espèces de bord de mer, parce qu'il y a des choses qui ont évolué en l'espace de 6-7 ans déjà. Donc du coup j'ai refait le livre, je l'ai étoffé, parce qu'on est passé à... Il y avait 99 espèces dans le précédent, là on est à 157.
Donc,
ça fait quand un rajout assez conséquent.
Ah, déjà, moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'oiseaux de mer. Donc, parce qu'on parle bien des oiseaux de mer de chez nous. Hein,
oui, tout à fait.
Ouais, on ne va pas les chercher outre-Atlantique ou dans le Pacifique, c'est ça.
Non, enfin,
sauf pour ceux qui migrent.
Voilà, bon, c'est pas 157 oiseaux de mer, dans le sens, ce n'est pas des pélagiques, quoi, qu'on s'entende bien. Oiseaux de mer, il y a plusieurs statuts. Il y a quatre statuts au niveau des oiseaux marins.
Ah oui, alors quoi ?
Il y a ceux qui sont du grand large. Donc on appelle les oiseaux pélagiques. Il y a ceux qui vont, donc qui sont en général à plus de 10 000 décotes. Hein, donc là-dedans, on va trouver tous les puffins, les océanites, les fous de bassin, accessoirement. Et après, vous avez une deuxième tranche dans les oiseaux pélagiques qui sont proches des côtes. Donc on va trouver avec un maximum de 2-3 000 de la côte. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Après, il y a ceux que j'appelle les pieds dans l'eau. Donc ceux qui sont à la fois capables de nager, mais qui ont plutôt une préférence pour le barbotage, on va dire ça comme ça.
C'est quoi, c'est ce qu'on appelle les limicoles, enfin c'est des échassiers,
ouais, voilà.
Un peu, non ?
Là-dedans on va trouver les limicoles, mais on va trouver aussi les goélands ou les mouettes, parce qu'ils ont cette possibilité de faire les deux, d'être à la fois dans un champ à l'arrière d'un tracteur, et puis en même temps d'être en bord de mer à pêcher. Voilà. Et puis après on a la quatrième catégorie, qui est ce qu'on va trouver sur l'estran. Voilà. Et là, on a un petit peu élargi l'estran, c'est-à-dire qu'on a intégré des oiseaux comme les alouettes, comme les pipites, qui sont des oiseaux qui descendent de temps en temps sur le sable, sur le bord de...
C'est plutôt des oiseaux de dunes, non ?
Ouais, pas seulement, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher... un ensemble de petits organismes qui sont mis à disposition par la putréfaction des algues.
La fameuse laisse de mer.
Voilà, la laisse de mer. Voilà. Donc, ils vont se nourrir autour de cette laisse de mer.
Mm-hmm. Et ils ne sont pas forcément migrateurs. Enfin, dans tous ces oiseaux-là, ces quatre catégories, ils sont plutôt sédentaires, migrateurs. Ça ne dépend pas de leur catégorie.
Oui, non, ça rentre pas trop. Enfin, ça rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux pélagiques, le fou de bassin. Il arrive sur nos côtes. Il aurait pu arriver sur nos côtes. Actuellement, il l'est, mais bon, il est quand même très, très... Les effectifs sont en chute libre.
Oui, on va
libre,
en reparler, oui.
Voilà. Et cet oiseau-là, il quitte sa zone de nidification vers le 15 octobre, à peu près. Alors, c'est pas un jour, ni une semaine près, mais enfin, c'est une date à peu près repère. Et il va revenir, les mâles vont revenir sur leur terrain de nidification vers le 15-20 janvier et vont commencer à s'installer. Voilà, donc là... Celui-là, il est migrateur, puis le reste du temps, il va le passer en mer, au large. On le croise avec des bateaux de pêche, on le croise et il descend relativement bas, hein, parce qu'on trouve, en dessous d'Agadir, on trouve du fou de bassin à traîner, même à descendre plus bas sur le long des côtes. Quoi.
Et ces oiseaux pélagiques qui vivent très très loin au large, est-ce qu'on a quand même des chances de les voir, nous, en Bretagne, enfin sur les côtes du Finistère, les apercevoir de temps en temps ?
À la longue vue, ils ont des lieux de passage, c'est-à-dire que quand ils sont en flux migratoire, donc ils passent en colonne, c'est-à-dire souvent ces oiseaux-là sont des groupes de 20, 30, il peut y avoir plusieurs centaines, hein, d'oiseaux, les macreux, Creuse, par exemple, sont des oiseaux. On trouve des groupes de 100, 200, 300 oiseaux.
Ça ressemble à quoi, juste pour savoir?
C'est une espèce de canard marin, tout noir. Ah oui. Voilà, donc il y a deux macreuses, il y a la brune et la noire. Et donc voilà, donc c'est des oiseaux qui vont nicher très haut en Norvège, tout plus haut encore, au Groenland, au Svalbard, enfin bon voilà. Et donc tous ces oiseaux-là, ils ont des moments où ils descendent parce que les conditions météo ou le froid fait qu'ils ont, ils trouvent pas de quoi se nourrir et ils vont descendre par paliers. Alors, certains restent pas très loin de leur zone de nidification. Et puis, une autre partie va vraiment descendre très, très bas. Quoi.
Et est-ce qu'il y a des oiseaux de mer qui nidifient, enfin, je ne sais pas si le terme est exact, mais uniquement sur des îles, par exemple, au large, enfin...
Ah oui. Bah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a un certain nombre d'oiseaux qui, le macareux actuellement, le seul endroit en France où il niche encore, c'est l'île Rouzic. Donc là, on est vraiment dans une île qui, elle est pas très loin de la côte, hein, elle est, mettons, à 2000 peut-être de Trégastel ou de Ploumanac.
Vers les Côtes d'Armor, ouais.
Donc on est à une certaine distance, mais c'est pas très loin. On voit l'île de la côte.
Et c'est son coin. Et c'est le seul coin en France
où il est nicheur. Alors il y a un petit spot au large de la centrale nucléaire. J'ai un petit trou là qui est
de Normandie, enfin de Flamanville.
Il y a des îles anglo-normandes là qui sont par là. Là il reste un petit spot au Scilly, il reste aussi, mais enfin l'île Rouzic est pour le moment l'île la plus basse de nidification du macareux.
Et dans ce livre, Oiseaux de mer et oiseaux du littoral, c'est uniquement ceux de Bretagne ou est-ce que ça peut être des oiseaux de Méditerranée éventuellement
On a des oiseaux d'un petit peu... Moi, j'ai traité le sujet mer de façon un petit peu globale. C'est vrai, je ne suis pas vraiment rentré dans la partie Méditerranée, mer Noire et tout ça, parce que, dans le livre, à un endroit sur les puffins, par exemple, j'ai mis le puffin Yelkouan, c'est un photographe algérien qui m'a fourni la photo du puffin Yelkouan, qui est un oiseau qui est plus, lui, vraiment typé Méditerranée. Mais autrement, non, c'est globalement, on va dire, la façade atlantique.
Et les photos, il y a combien de photographes qui ont participé finalement?
J'ai invité, j'ai toujours aimé faire ça, j'ai invité 22 photographies qui ne sont pas de moi, sur, il y en a quand même, je ne sais pas, 400, 500 photos sans problème.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai Yvon Kersaudy qui est un Brestois, j'ai Jean Andrieux qui est quelqu'un du Grenoble, Jean-Luc Daniel, qui est de Paris, Thierry Kellenec, qui est de Saint-Renan, Laetitia Beauverger, qui est du Nord Finistère, Patrick Alcala, qui est de Saint-Pierre-et-Miquelon, Khaled Ayash, Philippe Prigent, qui est de Saint-Malo,
On va tous les citer, ça y est, on va y arriver. C'était aussi parce que peut-être que vous, Serge Kergoise, vous n'aviez pas réussi à avoir tous les oiseaux
C'est pas forcément mon approche. Mon envie, c'est de faire partager le livre avec d'autres et puis que d'autres personnes. Il y a un jeune de 12 ans, Jules Renaud Pochet, que j'ai rencontré sur un salon, on a sympathisé, et puis on a échangé, puis je lui dis, il me disait qu'il faisait des photos, je lui dis, écoute, je suis en train de publier un livre sur les oiseaux de mer, si tu as des photos, adresse-les-moi, puis j'essaierai d'en publier une. Donc il a la spatule blanche, donc il m'a fourni une photo et je l'ai publié, voilà.
Et qu'est-ce qui déclenche quand même cette passion de la photographie d'oiseaux
?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photographes qui s'intéressent aux oiseaux, pourquoi ?
Bah parce que c'est quand même un petit côté un peu magique. Quand on réussit une belle approche d'un oiseau, qu'il accepte cette approche, qu'on va avoir une relation... Enfin, l'oiseau est là, on ne le perturbe pas, on ne le dérange pas dans son activité. Et puis, il se nourrit, il se déplace, il se sèche. Enfin bon, il y a tout un...
Ah oui, on peut vraiment le voir vivre, en fait.
Voilà, ouais. Et c'est vrai que la longue focale, le 600 mm, ou si vous avez un extendeur, éventuellement 840 ou 960 mm.
Là, on est dans la technique, j'avoue que je ne comprends rien, mais c'est pas grave.
En gros, si vous voulez 50 mm, vous avez des jumelles. Vous
oui,
avez,
d'accord.
Mettons, vous avez une paire de jumelles, c'est écrit 8,42. Bon. 42, c'est le diamètre de la lumière qui rentre dans votre jumelle, et 8, c'est le grossissement. Donc, en fait... Les appareils photo, un 600 mm, ça grossit 12 fois. Un 860 ou un 960, vous voyez, vous prenez 50 mm et vous multipliez pour obtenir le grossissement. Donc, ce qui fait qu'un 600 mm, ça grossit comme une très, très bonne paire de jumelles. Donc, il n'y a pas besoin de jumelles. Donc, ça vous met vraiment dans un espace privilégié.
En fait, l'appareil photo devient un appareil d'observation. Parfois, on n'appuie même pas sur le déclencheur, si. En général, quand même.
Alors, faut essayer de quand même rester présent et de bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent. Maintenant, je photographie d'abord, je réfléchis après. Il y en a beaucoup qui disent que de toute façon, ils réfléchissent jamais. Donc, l'affaire est entendue. Mais bon, voilà. C'est parce que
si quand on l'a, il faut le saisir et puis après, on peut voir s'il va rester, etc. Voilà. Si on peut réappuyer sur le...
Oui, puis même, vous allez avoir quelque chose qui se passe. Alors, je vais vous prendre le dernier exemple que j'ai eu d'une scène très particulière qui s'est passée à l'île de Sein. J'avais repéré un rapace qui avait un drôle de comportement. Et bon, tout de suite, bon, bah là, vous, dans votre moulinette, vous réfléchissez, vous dites qu'est-ce qui se passe, il y a un truc. Et j'ai très vite compris que c'était un faucon pèlerin. Donc, du coup, j'étais au milieu d'un chantier. Il y avait des gars qui intervenaient avec des tracteurs, des machins. Donc, j'ai réfléchi très vite. J'ai dit, si je me mêle au groupe de travailleurs, je dois pouvoir approcher à 40 mètres de l'oiseau pour un faucon pèlerin. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai fait ça. Je me suis approché du bord. Et puis, le faucon pèlerin, il est descendu se poser sur un caillou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas, quoi. Et à un moment donné, il est resté en observation comme ça, il a décollé et il a filé sur l'eau. J'ai dit, il s'en va. Mmh. Et au moment où il passait au-dessus d'un petit caillou rond, il a eu une attitude très bizarre, c'est-à-dire qu'il a plongé dans l'eau. Alors, un faucon pèlerin qui plonge dans l'eau.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas habituel, quoi. Ouais.
Si vous êtes dans la réflexion, et ça m'est déjà arrivé, du coup, vous faites pas les photos.
Et personne ne vous croira.
Voilà, tout à fait. D'une part, et puis vous allez avoir toute votre vie, vous allez avoir ça dans la tête.
Le regret.
Voilà. Et donc, du coup, je faisais les photos, je réfléchissais en même temps et je comprenais pas. Je me suis dit, il a attrapé un poisson.
Et alors?
Donc il y avait du remous, ça se bagarrait, je comprenais pas trop. À un moment donné, il y a une forme triangulaire qui est sortie de l'eau, donc je me suis dit, il a attrapé un poisson, il n'y a pas d'autre truc. Et puis la scène dure un peu, il n'était pas à l'aise, il était quand même quasiment jusqu'au haut du poitrail dans l'eau, et il commence avec ses ailes à faire comme avec des rames et à essayer de remonter sur le caillou. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il avait attrapé par l'aile un chevalier gambette qui était sous l'eau.
Qui est un oiseau, voilà, un autre oiseau.
Un autre oiseau, donc. Et la scène, elle a duré avec des prises de judo dans tous les
donc,
sens.
Donc le faucon pèlerin chasse le chevalier gambette.
Voilà, il l'avait attrapé et le chevalier gambette, pour essayer de fuir... S'immerger complètement.
Se réfugier dans le... Et alors, dans ce livre Oiseau de mer, Oiseau du littoral, il n'y a pas de rapaces, quoi. Si, du coup.
Si, il y a quelques rapaces. Ah, oui. Ouais. Il y a le balbuzard pêcheur, il y a le faucon pèlerin, voilà, il y a quelques oiseaux qui font de la prédation en bord de mer.
Ouais. Donc il y en a 157, c'est ça,
157,
les oiseaux.
Ouais.
Donc chacun des 157 oiseaux a droit à une fiche. Enfin, comment ça se présente?
Oui, alors, donc. On a fait un effort sur cette nouvelle version et qu'on va continuer dans les séries qui vont venir. On a un sommaire, je te montre, c'est vrai qu'à la radio c'est difficile d'expliquer, mais
le sommaire est en image.
Voilà, on a 8 photos d'espèces par page. Donc ça nous fait un sommaire de plus de 20 pages.
Ben oui.
donc c'est relativement conséquent, mais voilà, ce qu'on a envie vraiment, c'est que les gens, que ce sommaire soit utile, ils repèrent d'après la forme de l'oiseau, et vu la taille du visuel, il fait quand même 3 cm par 4 cm, c'est des gros plans, donc ça permet d'identifier le sujet. Après,
donc on voit un oiseau, on regarde dans le sommaire, on le reconnaît, et on est renvoyé, donc en fonction de la photo, on est renvoyé vers la page.
Voilà, vers la page, exactement. Mm-hmm. Alors, mettons qu'on ait trouvé... on a parlé tout à l'heure des macreuses. Ben,
ou des canards.
On a donc la fiche macreuse qui est présentée. Et après, on va vous réunir sur une double page, ce qui est assimilable à des canards marins. Donc, effectivement, on aura la macreuse noire et la macreuse brune.
Il y a beaucoup de canards marins, en fait.
Oui, hein,
voilà, c'est vrai que souvent, on pense canard, on pense aux douces, mais on a tort. Qu'est-ce qu'il y a dans la fiche de chaque oiseau?
Il y a toujours un petit texte, hein, par exemple, ici, j'essaye de mettre toujours un peu d'humour, parce que moi, mon objectif, c'est que quelqu'un prend ce livre pour identifier, donc il fait l'effort de chercher dans un livre. Il faut vraiment soit qu'il trouve, soit qu'il remette le livre en place, mais en ayant passer un petit moment agréable. Alors ici, par exemple, si on prend le chevalier arlequin, je démarre le texte en disant « Noir, c'est noir ». Donc tout le monde a reconnu le titre de la chanson de Johnny. Et je mets donc « Et peut-être la chanson préférée de notre chevalier ». Donc c'est un point de question.
Il est pourtant pas noir.
Voilà. Si, parce que justement, en nuptial, il est noir.
Ah, d'accord.
Donc voilà. Donc,
seulement en nuptial.
Ouais, seulement en nuptial.
Après,
c'est
il
vrai
change
que
de
il change de voilà, il change de couleur. Plume. Donc, il y a une petite description de l'oiseau. On vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il fait, où, à quel moment on le trouve. On a rajouté en haut du livre le nombre de couples, si c'est un oiseau nicheur ou si c'est juste un hivernant. Et donc ici, je suis sur la page Chevalier Arlequin. Donc, il y en a en gros 550 qui passent l'hiver chez nous. Voilà. Il y a son nom en breton, bien entendu.
Et si on le voit en été, c'est qu'on s'est trompé d'oiseau, c'est ça?
Alors, aujourd'hui, je n'irai pas dire ça, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, et il y a tellement de choses. Vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais au mois de janvier, cette année, on a eu un traqué du désert au Guilvinec.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un petit oiseau qui se balade sur la laisse de mer aussi, mais qui est un oiseau du Sahara, enfin de la proximité du Sahara, donc qui n'a strictement rien à faire là. Mais il était au mois de janvier du côté du Guilvinec.
Donc on peut présumer que c'est un effet du changement climatique, et ça nous amène à la dernière question qu'il faut quand même qu'on se pose. Ces oiseaux marins, comment vont-ils? Alors déjà, en plus, ils ont été victimes de la grippe aviaire, c'est ça?
Oui, et elle est de nouveau présente, elle est en Ille-et-Vilaine, où les mouettes rieuses, il y a un certain nombre de... On en a trouvé plusieurs dizaines de mortes autour de différents points d'eau. Donc ça laisse présumer, malheureusement, de quelque chose qui ne va pas être terrible pour cette saison au niveau de nidification. Ça va sans doute entraîner des problèmes, et j'espère que ça ne rejaillira pas sur les fous de bassin, oui, et sur les alcidés qui ont juste des uniques colonies autour de cette île. Et là, si ça retourne sur cette zone-là, ça va être catastrophique.
On pourrait avoir des disparitions d'espèces, enfin, ça pourrait aller jusque-là pour les fous de bassin qui étaient très touchés ou...
Le fou de bassin, alors, la LPO a pris une espèce de carré de repérage de 100 individus sur une certaine surface, et en fonction de ça, ils ont donc il reste, il y a 18
couples. Ils ont évalué
combien
il restait, quoi.
Il reste 17 à 18 couples qui sont revenus. Alors, j'ai plus le chiffre exact, hein, mais il y a une quarantaine d'individus seuls, et il y en a une autre quarantaine qui n'est pas présente du tout, dont les trous sont vides, enfin les nids sont vides plutôt, sont pas occupés. Donc
ça fait peu.
Alors les adultes qui ne sont pas accouplés, parce qu'en fait le fou de bassin a un partenaire à vie.
Donc, il est fidèle.
Il est fidèle, et du coup, ils vont chercher, sans doute, mais Alors, est-ce que du coup, ils vont se déplacer? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans des colonies écossaises, des colonies canadiennes, des colonies ailleurs? On ne sait pas, ça, c'est difficile de dire. Là, ils sont présents. Est-ce qu'ils vont recruter chez les immatures? C'est possible. Hein. On a vu dans des situations très critiques sur certaines espèces où mettons que la maturité sexuelle était à 5 ans, et en cas de crise très forte de reproduction, la maturité sexuelle va se déclencher à 3 ans.
D'accord. C'est là qu'on voit que les oiseaux marins ont plus que jamais besoin d'être protégés. Et pour protéger, il faut connaître et il faut donc se procurer ce livre, Oiseaux de mer, oiseaux du littoral, de Serge Kergouat. Merci beaucoup.
Merci à vous.